relever, restaurer, conserver le patrimoine de nos terroirs. Une émission de la Fondation du patrimoine, présentée par Bernard Cassanier et Olivier Seb.
Bonjour Eric.
Bonjour Bernard.
Écoutez, on va rester aujourd'hui dans le Cher, on a parlé du château de la Vardens la semaine dernière. On va rester dans ce pays gascon, qui est un grand pays, mais on revient à l'ancien régime finalement. Oui,
oui, on retrouve les vieilles provinces.
Le pays gascon est né autour des actuels départements des Landes, du Gers et également de la Bigorre, cœur historique de la région, pour s'étendre au nord jusqu'au Médoc en Gironde et au sud dans le massif des Pyrénées. Elle était peuplée des Vascons. La Vasconie est devenue, avec la France, le duché de Gascogne, qui fit briller Auch, Eauze et Saint-Sever.
Et si la région est connue, a connu une véritable ferveur historique sous l'Ancien Régime, son territoire de nos jours se partage entre les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Ah oui, elle est pile à l'intersection, donc elle a une partie d'un côté, une partie de l'autre.
Et oui, c'est un peu le problème que nous avons, puisqu'on a les pieds baignés par l'Aquitaine et la tête par l'Occitanie. Le nom de Gascogne, ce triangle aquitain du sud-ouest de la France, qui s'est partiellement également appelé Guyenne, oui, la Guyenne et la Gascogne, n'a pas survécu au dessein capétien et à la chute de la monarchie, comme d'autres régions d'ailleurs, l'Anjou ou la Flandre notamment.
Avec la plus grande forêt artificielle d'Europe, formée de pins, comme chacun sait, plantée sous l'impulsion de Napoléon III pour assécher les marais proches de la côte atlantique, la vigne abondante et les 12 collines plantées de bastides, la Gascogne est riche de territoires divers, parfois rivaux, mais toujours complices pour défendre un pays, un parler et un art de vivre culinaire unique. Chacun bien au courant.
Alors on revient au château de la Vardens, puisque au cœur de cette Gascogne, à deux pas de la ville d'Auch, une visite s'impose à vos balades, celle d'un site majestueux, le château de la Vardens, fief des comtes d'Armagnac au XIIe siècle, d'origine féodale et capitale militaire. Les comtes d'Armagnac, la forteresse médiévale de la Vardens fut détruite en 1496 par les troupes royales Antoine de Roquelaure, compagnon et ami d'Henri IV, fit reconstruire donc ce château de Lavardin au XVIIe siècle pour l'amour de sa vie, Suzanne de Bassabat.
Alors l'histoire du château. Un château est attesté sur le point culminant de la commune de Lavardins dès 1140. Le premier châtelain connu, Géraud de Lille-Arbéchamp, est un vassal du comte de Fezensac. Le château entre ensuite dans les possessions des comtes d'Armagnac, dont Jean Ier, qui en fait sa résidence principale, et y donne des coutumes entre 1400 et 1410. Son épouse Odile de Gaulle y est morte. Elle y a fait déposer ses archives.
Les possessions de Jean V d'Armagnac tombent sur le domaine royal après la prise de Lectoure par Louis XI et la mort du comte d'Armagnac en 1473. Son frère cadet, Charles Ier d'Armagnac, tente de les conserver, mais il est emprisonné de longues années à la Bastille et il rentre à Lavardens très affaibli en 1484, après la mort de Louis XI.
Le château est alors pris d'assaut par les troupes de Charles VIII en 1496. Charles Ier meurt l'année suivante à Castelnau de Montmiral, dans l'Albigeois où il s'était réfugié. Le château abandonné va ainsi tomber en ruine.
L'édifice tombe donc en ruine jusqu'en 1585, où apparaît un personnage important, Antoine de Roquelaure, ami proche du roi Henri IV, et avant lui, familier de la cour de Jeanne d'Albret. En récompense de sa loyauté et des services rendus, on lui offre la seigneurie de Lavardens.
À partir de 1620, fixé à Lectoure, dont il est le gouverneur, et pour les beaux yeux de sa jeune nouvelle épouse Suzanne de Bassabat, il entreprend la construction du nouveau château sur les fondations médiévales. Il fait appel à deux architectes parmi les plus réputés du temps, Pierre Souffron et Pierre Levesville. On ne sait pas quelle a été la part respective de chaque architecte dans la construction.
Oui, alors Pierre Levesville est supposé avoir également travaillé au château du Rieutort, autre propriété d'Antoine de Roquelaure, dans la commune voisine de Roquelaure, berceau de la famille. Le maréchal de Roquelaure se verra alors, ne verra pas la fin de la construction, car il meurt en 1625 à l'âge de 81 ans.
Et la disparition d'Antoine de Roquelaure en 1625, puis l'épidémie de peste qui sévissait dans le Gers en 1653, vont mettre un fin à l'avancée des travaux. Le château ne fut jamais achevé, il est resté en l'état depuis lors, Bernard.
Après la Révolution, vendu à 12 familles de copropriété, conclut progressivement l'édifice à la ruine. En 1653, une épidémie de peste dévaste le village et le majestueux vaisseau de pierre blanche sera jamais achevé. Il est resté intact depuis, figé à l'état de chantier.
Intéressons-nous à son architecture. Maintenant, le château se présente sous la forme générale d'un parallélépipède élevé, donc de plan rectangulaire, sur lequel un autre corps également rectangulaire vient se greffer avec un léger angle au nord. D'autres corps de bâtiments plus petits s'y rattachent aussi.
Deux tourelles carrées sur les angles de la façade ouest ne dépassent pas aujourd'hui le toit de quatre pentes qui couvre l'ensemble de l'édifice. C'est cette façade qui constitue le premier attrait du château, chaque tourelle en encorbellement reposant par des trompes caractéristiques sur les contreforts d'angle, pardon. Ce qui représente à l'époque une rare prouesse architecturale et technique. Leur rôle n'était pas militaire, mais uniquement un rôle d'agrément servant de passage entre les trois balcons établis sur des arcades sur les trois faces.
Donc leur rôle n'était pas militaire, mais uniquement un rôle d'agrément, comme vous l'avez rappelé, servant de passage entre les trois balcons établis sur des arcades sur les trois faces de la partie occidentale et se prolongeant façade sud par des corbeaux qui soutenaient une galerie en bois. Le but, comme les grandes fenêtres à meneaux, était à l'évidence de jouir de la large vue sur la vallée qui s'étend en contrebas.
À leur base, les tours, les murs épais munis de meurtrières témoignent de la volonté défensive originelle. On voit effectivement quand même que c'est un ancien château fort, parce qu'il est très massif. Et les ouvertures, bon, il y a eu des ouvertures Renaissance aménagées, mais on voit très bien qu'à l'origine, c'était un château fort. C'est dans les parties inférieures que l'on peut voir la forteresse d'origine, avec deux belles salles voûtées en berceau, dans la salle des gardes également, qui est du XIIIe siècle. Le clocher de l'église actuelle était une tour du château médiévale.
Dans les étages, 17 salles présentent des pavements de briques et de pierres calcaires locales, formant ainsi des décors tous différents. Alors, le château de la Vardins de nos jours, me direz-vous? Eh bien, il faut savoir qu'il a été sauvé grâce à une poignée de passionnés dans les années 60. Il est classé monument historique en 1961 et conçu dans le goût raffiné du 17e. Le château de la Vardins présente de véritables prouesses architecturales uniques. Lieu patrimonial d'exception au cœur de la Gascogne, son classement aux monuments historiques est une renaissance pour le site. L'encorbellement des tours, les pavements ocre et pierre aux motifs uniques, les galeries extérieures, la vue panoramique sur la campagne en font une étape passionnante pour les amoureux d'histoire.
En 1979, Hubert Motte sauva le château d'une destruction imminente en créant une association de sauvegarde. Il s'entoura de bénévoles afin d'œuvrer à la restauration du monument et à son ouverture au public.
Et aujourd'hui encore, l'association est toujours garante de l'endroit et considère que la culture constitue une force d'expression et de transmission des valeurs éducatives et citoyennes de notre société, qu'il est donc à ce titre important de sauvegarder ce patrimoine et de le transmettre aux générations futures.
L'association a pour but d'assurer la valorisation du patrimoine grâce à une exposition permanente relatant l'histoire et l'évolution du château. ainsi que de s'inscrire dans le développement culturel, économique et social de ce territoire au travers d'actions culturelles et expositions temporaires, tout en favorisant l'insertion associative et socio-professionnelle.
Et puis, mais grâce à la Fondation du patrimoine Occitanie-Pyrénées, une collecte de dons va être lancée très prochainement. Les travaux de restauration de l'aile nord-est devraient commencer avant l'été, si tout se passe bien.
Alors, la collecte est déjà en route. Et d'autre part, la Fondation Total nous a octroyé une aide de 125 000 euros pour restaurer ce château. Le projet de restauration comprend deux phases. D'abord, la consolidation des maçonneries et la reprise structurelle de l'aile nord-est. Ensuite, le chantier se poursuivra avec la restauration intérieure des deux salles, la mise en valeur de la salle basse et la restauration extérieure des façades nord et est sur cours, ainsi que la mise en place du chauffage, parce que c'est une vraie glacière.
Comme souvent les vieilles bâtisses. Voilà donc pour le château de
Voilà, donc il y a quelque chose de très intéressant, si vous avez l'occasion, Eric, d'y aller. Au moment de l'Avent, il y a de très belles expositions tous les ans de Santons, entre autres.
J'y avais vu il y a une bonne dizaine d'années maintenant, même une douzaine, une très belle exposition Camille Claudel au château de la Vardins.
Voilà, le président de l'association n'est autre que... Ça a été Olivier Seb, d'ailleurs, un instant, pas longtemps. Et maintenant, c'est Christophe Jean-Coviac, qui est un de nos délégués du territoire sur la Gascogne et sur le Gers.
Merci Bernard.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.